Précis Isaïe dans son contexte historique, simplement. Ainsi, la première annexe est consacrée à une chronologie très sommaire de l'Ancien Testament qui récapitule un petit peu les dates importantes de l'histoire d'Israël, d'Abraham, on va dire, en tout cas du début du livre de la Genèse jusqu'au retour de l'exil. Et puis une deuxième annexe est consacrée au ministère et la prophétie d'Ésaïe pour vous permettre de vous y retrouver dans ce mastodonte qu'est le livre d'Ésaïe. En tout cas de replacer le quatrième chant du serviteur dans son contexte. Et puis vous avez enfin la structure du quatrième chant pour vous aider à savoir où on en est et qui apparaîtra en début de chaque intervention. Là encore, pour que nous puissions vraiment nous émerveiller de la façon dont Dieu a contribué à l'inspiration de sa parole, mais au-delà de ça, pour que nous puissions nous émerveiller devant Dieu lui-même, qui est l'auteur de cette parole inspirée, n'est-ce pas? Et donc c'est le pauvre point, Ésaïe 52, 13 à 15. Merci beaucoup. Le film Gladiator, t'aimes ça Julien, raconte l'histoire du général romain Maximus Decimus, interprété par le beau Russell Crowe, Australian. Après avoir conduit les armées de l'empereur Marc Aurèle à de nombreuses victoires, Maximus apprend que l'empereur le préfère à son propre fils pour exercer le pouvoir. Vous vous rappelez? Vous avez vu ce film? Non? Faut le voir. Mais c'est sans compter sur le méchant Commode, qui du coup n'est pas très commode. C'est la première en 48 heures. Commode, le fils de Marc Aurèle, qui après avoir appris la nouvelle, vous vous rappelez, étouffe son père. Vous vous rappelez de cette scène terrible? Il étouffe son père dans une étreinte mortelle et devient ainsi le nouvel empereur. Conscient que Marc Aurèle a été assassiné, Maximus refuse de se soumettre à l'autorité de Commode, ce qui lui vaut d'être condamné à mort. Maximus est alors escorté jusqu'à son lieu d'exécution dans la forêt, vous vous rappelez. Il s'apprête à être exécuté et il demande à avoir la mort d'un soldat parce qu'on lui enfonce une épée dans la colonne vertébrale. Et là, il réussit en fait à esquiver le coup d'épée. Il éclate tout le monde sur son passage. Il prend quand même un petit coup d'épée dans l'épaule. Hein. Il doit perdre à peu près 4 ou 5 litres de sang. Il sombre dans un sommeil proche de la mort. Vous vous rappelez, hein? Et il doit finalement sa survie à des marchands d'esclaves qui le récupèrent au passage et le vendent à un riche propriétaire terrien. Et là, il a un ami qui soigne sa plaie, hein, avec des vers. Vous vous rappelez? Bon appétit. Si vous avez déjà vu Gladiator, comme c'est peut-être votre cas, vous savez comment Maximus est passé de la condition d'esclave au statut de véritable héros national. Et si vous n'avez pas vu le film, Rebecca par exemple, vous vous posez peut-être la question suivante, mais comment un homme blessé, trouvé à moitié mort par des marchands d'esclaves et réduit en esclavage, comment cet homme va-t-il devenir un héros dont le nom va être scandé par des milliers de personnes, qui va finalement conquérir la foule du Colisée? Un amphithéâtre romain pouvant accueillir entre 50 000 et 75 000 personnes. Vous vous rappelez comment l'Espagnol est acclamé par cette foule de personnes? Mais comment cet homme, réduit en esclavage, est passé d'un statut d'esclave au statut de héros national? C'est ce qui se passe, non, dans le film, vous vous rappelez? Comment expliquer ce renversement absolument extraordinaire? Réponse, grâce à des victoires décisives dans l'arène. C'est au combat que l'Espagnol a gagné son statut, en transperçant les autres, en leur coupant la tête. C'est vrai, il coupe quelques têtes. Dans la première strophe, celle que nous allons lire ensemble ce matin, la première strophe du quatrième chant du serviteur, qui est en fait une sorte de résumé, je pense, de prologue, d'introduction au poème, Ésaïe va attirer notre attention sur un homme dont l'histoire ressemble un peu à celle de Maximus. Nous allons voir ce matin, mes amis, un serviteur blessé, littéralement défiguré. Un serviteur sujet d'effroi pour beaucoup, qui va devenir un héros non pas national, mais international, élevé au plus haut point. Et là, vous allez me demander, mais comment expliquer ce renversement de situation extraordinaire? Comment ce serviteur va-t-il faire pour passer d'un statut d'homme défiguré à un statut de héros national international? Eh bien, grâce à une victoire décisive. Une victoire décisive que le serviteur a remportée non pas dans une arène, mais sur une croix. Non pas en transperçant les autres, mais en étant transpercé par les autres, en étant percé. Percé pour nos péchés. Et c'est ce que le prophète Ésaïe veut nous faire comprendre, à mon avis, dans ce résumé prologue qui va révéler, et c'est l'idée principale que j'aimerais que nous retenions ce matin en une phrase, qui va révéler que la sagesse de Dieu confond la sagesse des hommes. La sagesse de Dieu confond la sagesse des hommes. C'est-à-dire tout plan ou toute stratégie qui consiste à placer notre confiance en nous-mêmes plutôt qu'en Dieu pour être sauvé, pour résoudre le problème dont nous parlions hier. Vous vous rappelez, le problème qui est au cœur d'Ésaïe, au cœur de la Bible, au cœur de la condition humaine, le problème du péché qui nous sépare de Dieu. La sagesse de Dieu confond la sagesse des hommes. Et vous allez me demander, pourquoi parler de sagesse? Nous allons lire le passage, le mot sagesse n'est pas employé, pourquoi parler de sagesse? Eh bien, j'aimerais vous faire découvrir ça après avoir lu le passage. Lisons ensemble, plongeons nos regards dans Ésaïe chapitre 52, les versets 13 à 15. Vous l'avez? Je lis dans la version Colombe. Ésaïe chapitre 52, versets 13 à 15. Soyons attentifs à ce que Dieu nous dit dans sa parole. Voici mon serviteur. Il prospérera, il montera, il s'élèvera, il sera très haut placé. De même que tu as été pour beaucoup un sujet d'effroi, de même son aspect n'était plus celui de l'homme, son apparence n'était plus celle des fils d'Adam. De même, il purifiera par l'aspersion beaucoup de nations. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait pas été raconté. Ils comprendront ce qu'ils n'avaient pas entendu. Pourquoi je parle de sagesse dans ces versets? Pour trois raisons principales. Parce que le premier verbe du verset 13, regardez avec moi l'un des tout premiers verbes. Voici mon serviteur, il prospérera. Ce premier verbe peut très bien se traduire agir avec sagesse. Et il se peut que vos versions traduisent de la même manière. Agir avec sagesse. C'est en tout cas ce que font les versions Darby et Summer en français. Tout ce que j'aime. Et les versions ESV et NIV en anglais, English Standard Version, c'est ça, hein, et New International Version. Donc vous voyez, la traduction « agir avec sagesse » n'est pas dénuée de sens. Deuxième élément, selon Barry Webb, un commentateur australien, peut-être le plus pertinent sur le livre d'Ésaïe, qui a écrit un commentaire dans la série « Bible Speaks Today », BST, selon lui, les rois du verset 15, vous avez remarqué l'influence, la référence au roi au verset 15, étaient les éminents, les plus représentatifs de la sagesse à l'époque, selon lui. Troisième et dernier élément qui milite en faveur, à mon sens, de la force de la sagesse, c'est que parmi les synonymes du mot sagesse dans l'hébreu biblique, rorma, figure notamment le mot bina, et là je m'adresse aux hébraïsants, le mot bina, qui est un synonyme du mot sagesse, justement. Et là, ce même verbe est utilisé au verset 15, comprendre. Ok ? Donc comment Dieu va-t-il confondre la sagesse des hommes ? Comment la sagesse de Dieu va-t-elle confondre la sagesse des hommes ? Eh bien, c'est ce que j'aimerais voir avec vous brièvement en trois points. Premièrement, au travers d'un serviteur élevé. Deuxièmement, au travers d'un serviteur défiguré. Et troisièmement, au travers d'un serviteur sacrifié. Et vous allez voir que comme la Bible est bien faite, ces trois points sont liés les uns aux autres. Vous êtes prêts? Regardez encore le verset 13 avec moi. Voici mon serviteur, il prospérera, il montera, il s'élèvera, il sera très haut placé. La première chose que nous apprenons au sujet du serviteur, c'est qu'il prospérera, qu'il réussira ou qu'il agira avec sagesse. Très bien. Mais comment comprendre cette prospérité? Comment comprendre cette réussite, cette action empreinte de sagesse? Pour l'instant, il faut bien reconnaître que c'est un peu un mystère. Vous connaissez l'expression « mystère et boule de gomme ». Pour l'instant, on n'en sait rien. À mon sens, ce mystère va être révélé au fur et à mesure de poème, mais pour l'instant, mystère et boule de gomme. Tout ce que nous savons à ce stade du poème, dès le premier verset, c'est que le serviteur va accomplir la mission qui lui a été confiée, hein, puisqu'il va prospérer, agir avec sagesse, il va réussir dans la mission que Dieu va lui confier, et qu'il ne sera pas conséquent Qu'est-ce que dit le texte ? Quelle est la conséquence de cette réussite ? Élevé, absolument, regardez encore. Il montera, il se lèvera, il sera très haut placé. Il sera élevé au plus haut point. Et ce qui est très intéressant, c'est que les trois verbes décrivant l'élévation, l'exaltation du serviteur dans ce verset sont employés pour décrire qui, selon vous ? En Ésaïe 57, verset 15. Dieu lui-même, qui est le Dieu très haut. Vous connaissez cette expression, hein, le Dieu très haut. C'est le même verbe qui est utilisé dans ce verset pour décrire l'exaltation du serviteur, qui peut nous indiquer, en fait, le caractère divin du serviteur. Un serviteur élevé. Mais à quoi est due cette élévation ? À une stratégie militaire, digne de celle des États-Unis ? À une stratégie économique, politique ? Eh bien, regardez le verset 14 avec moi. De même que tu étais pour beaucoup un sujet d'effroi, de même son aspect n'était plus celui de l'homme. Son apparence n'était plus celle des fils d'Adam. Mes amis, est-ce que vous comprenez pourquoi le serviteur a été levé ? Parce qu'il a été défiguré. C'est mon deuxième point. Un serviteur défiguré. L'élévation du serviteur a été précédée de souffrances qui l'ont littéralement, que dit le texte ? Défiguré. De même que tu étais pour beaucoup un sujet d'effroi, de même son aspect n'était plus celui de l'homme. Vos versions ont peut-être défiguré. Le terme hébreu vient en tout cas d'un verbe signifiant corrompre ou abîmer, selon la Bible du Semeur qui dit « tant son apparence n'avait plus rien d'humain ». Vous voyez comment avant d'être élevé, en fait, le serviteur a été défiguré. Que l'élévation du serviteur, s'il a été élevé, c'est parce qu'il a été défiguré, c'est qu'il a souffert. Mais pourquoi ? Pourquoi a-t-il souffert ? Pourquoi a-t-il été défiguré ? Est-ce qu'il a croisé la route d'un pitbull enragé ? Alors, vous rigolez, hein, moi aussi, mais c'est ce qui est arrivé à un petit garçon, une année, qui s'est fait arracher la lèvre jusqu'au menton par un pitbull. C'est pas marrant. Mais ce n'est pas ce qui est arrivé au serviteur. Ce n'est pas la raison pour laquelle il a été défiguré. Regardez le verset suivant, le verset 15, et la première partie du verset 15, 15a. De même, il purifiera par l'aspersion beaucoup de nations. Pourquoi le serviteur a été défiguré ? Parce qu'il a été sacrifié. Et là, c'est l'objet de mon troisième et de mon dernier point. Premièrement, un serviteur élevé. Pourquoi le serviteur a été élevé ? Ouais, encore. Parce qu'il a été, encore, ouais, défiguré. Merci. Pourquoi a-t-il été défiguré ? C'est bon, c'est la fin. Parce qu'il a été sacrifié. Voyez la logique interne de ces trois versets. Et le premier verbe de ce verset a été traduit de différentes manières dans l'histoire du texte biblique. Je ne sais pas ce qu'ont vos versions. Ne vous inquiétez pas, ce sont des différences qui ne remettent pas en question le sens fondamental du texte. Hein. Mais selon les versions anciennes, notamment les versets grecs et latines, le serviteur dispersera, rejettera ou fera sursauter les nations. Et c'est peut-être ce que vous avez dans vos Bibles. Émerveillera, fera sursauter les nations. C'est notamment le cas de la traduction œcuménique de la Bible. Mais littéralement, ce qu'il y a de très intéressant, c'est que le verbe signifie asperger, littéralement. Un verbe assez surprenant et inattendu dans ce contexte, mais qui semble s'inscrire dans la continuité des versets précédents. Est-ce que vous comprenez pourquoi ? Pourquoi le verbe asperger prendrait tout son sens dans le contexte de ces versets ? De la même manière que le serviteur, que l'élévation du serviteur est la conséquence de sa défiguration, d'accord ? Le serviteur a été levé parce qu'il était défiguré. Sa défiguration semble être la conséquence de quoi ? Absolument, de son sacrifice, d'un acte d'aspersion qui fait référence au système sacrificiel de l'Ancien Testament, non ? Et là, je m'adresse à ceux qui sont en train de plancher sur le livre du Lévitique, qui est l'un des livres par excellence qui traite un peu du système sacrificiel. Comment le peuple de Dieu va pouvoir être en relation avec son Dieu ? Dans un premier temps, Dieu va instaurer le système des sacrifices. Il va falloir sacrifier des animaux pour que le sang coule, pour que la faute soit expiée et pour que le peuple puisse être pardonné de ses péchés et rentrer dans la présence d'un Dieu saint. C'est ce dont parle notamment le livre du Lévitique. Et à l'époque, voici ce que le prêtre devait faire pour que le peuple soit justement pardonné de ses péchés, purifié, accepté dans sa présence. Je lis un court passage de Lévitique, chapitre 4. Le sacrificateur, donc le prêtre, ayant reçu l'onction, c'est-à-dire consacré pour cette tâche, prendra du sang du taureau, un taureau sacrifié, l'apportera dans la tente de la rencontre, qui est un peu le symbole de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Il trempera son doigt dans le sang. Sympa, hein ? Il trempera son doigt dans le sang. Et il en fera 7 fois l'aspersion devant l'Éternel. 7. En face du voile du sanctuaire. Mes amis, quel est le point commun, selon vous, entre le serviteur, tel qu'il est décrit au verset 15, et le sacrificateur, dont nous venons de décrire la tâche? Ce sont tous les deux des prêtres, des sacrificateurs. Tous les deux sacrifient, d'accord? Ils accomplissent le même acte sacerdotal, d'une certaine manière. Le même rite d'aspersion, d'accord? Ils aspergent. De la même manière, il purifiera par l'aspersion, on est d'accord? Mais contrairement au sacrificateur de l'Ancien Testament, le serviteur est à la fois le sacrificateur, certes, mais aussi, bingo, le sacrifice. Il ne va pas sacrifier un animal, un taureau, un bouc, une bique, une chèvre. Qu'est-ce que j'oublie? Un bœuf, un bélier, un pigeon, une tourterelle, un lion, un canard, une pie, un serpent. On va arrêter là. Il ne va pas sacrifier un animal. Qu'est-ce qu'il va sacrifier? Il va se sacrifier lui-même. Il est à la fois le sacrificateur et le sacrifice. Regardez encore le verset 15. De même, il purifiera par l'aspersion beaucoup, beaucoup de nations. Il va asperger son propre sang. Son propre sang. Et ce qui explique les souffrances qui l'ont défiguré, non? Pourquoi le serviteur a-t-il été défiguré? Parce qu'il a été sacrifié. Parce qu'il a versé, aspergé son propre sang, ce qui sera confirmé par le prophète Ésaïe un peu plus loin dans le poème. La sagesse de Dieu, mes amis, confond littéralement la sagesse des hommes au travers d'un serviteur élevé, qui va être élevé parce que défiguré, qui va être défiguré parce que sacrifié. Et à la fin de cette première strophe, je me demande si le mystère, ou plutôt le paradoxe du premier verset n'est pas en partie résolu. Vous vous rappelez, pourquoi le serviteur va-t-il prospérer finalement? Pourquoi va-t-il agir avec sagesse? À quoi attribuer cette réussite? Je me demande si vous avez un élément de réponse dans vos têtes. N'est-ce pas en raison justement de ce qu'il va faire? N'est-ce pas en raison de son œuvre qui va confondre la sagesse des hommes, et notamment celle des rois? Regardez avec moi encore le verset 15b, la deuxième partie du verset 15. Devant lui, des rois fermeront la bouche. Les rois, encore les représentants les plus éminents de la sagesse de l'époque, des rois qui vont fermer leur bouche en assistant à un renversement de situation extraordinaire. Le gladiateur, l'esclave, est devenu un héros. Le serviteur défiguré est devenu un serviteur élevé. Mais quel renversement de situation extraordinaire et ironique! Est-ce que vous avez saisi l'ironie de ce verset? J'espère. Le serviteur qui était un sujet d'effroi et d'horreur, verset 14, celui dont on n'osait même pas s'approcher, tant il était impur, c'est celui qui va purifier les autres. Vous avez saisi l'ironie? L'impur est devenu celui qui va purifier les autres. Il purifiera par l'expression, beaucoup d'agents. Quel renversement de situation extraordinaire! Les rois en sont, mais bouche bée, ferment leur bouche devant ce qu'ils voient. Et vous? Et moi? Comment est-ce que vous réagissez face à ce serviteur? Quelle est votre réaction première en assistant à ce renversement de situation extraordinaire? Si des rois ont fermé leur bouche devant lui, des rois, à combien plus forte raison devrions-nous, devrais-je adopter la même attitude? Et j'aimerais finir avec 2 pistes d'application concrètes, pratiques pour nos vies. Premièrement, à partir de la deuxième partie du verset 15, regarde avec moi, fermez notre bouche. Ça fait l'objet de... Merci. Fermez notre bouche. Devant lui, devant le serviteur des rois, fermeront la bouche. Une réaction qui peut être interprétée comme un signe d'étonnement, de stupéfaction face au serviteur, face à la prédication de l'Évangile finalement, au cœur de laquelle se trouve Christ et Christ crucifié. Je ne sais pas depuis quand vous êtes chrétien, Julien nous posait cette question en introduction de ce moment, mais l'œuvre du serviteur, ce qu'il a fait, suscite-t-elle encore l'étonnement, la stupéfaction en vous, dans votre cœur, dans votre fort intérieur, Ou pensez-vous être devenu, comment dire, insensible, indifférent avec le temps? Le sacrifice de Jésus à votre place pour le pardon de vos péchés, son acte d'aspersion, de purification, vous touche-t-il autant que le premier jour où vous avez cru, ou la période de votre vie à laquelle vous avez cru? Si comme moi, vous avez parfois l'impression que la vérité de l'Évangile que vous connaissez par cœur, vous pourriez réciter la confession de foi de votre Église, les principes doctrinaux du GBU par terre, la Trinité, la rédemption, le salut, la justification par la foi, l'Église, j'en oublie quelques-uns, c'est pas grave. Vous connaissez l'Écriture, vous connaissez ça par cœur, sous le bout des doigts, c'est dans votre tête. Très bien. Mais la vérité de l'Évangile est-elle dans votre cœur? Ou est-elle devenue une réalité, une vérité un peu abstraite, irréelle, voire illusoire? Si c'est le cas, c'est peut-être, parce que nous avons oublié le prix que le serviteur a payé pour payer le prix de nos péchés, pour que nous soyons purifiés, rachetés. Alors, question pratique, concrète, est-ce que vous avez la discipline spirituelle? Et si je me permets de vous poser cette question, c'est que je me la pose à moi-même. Est-ce que vous avez la discipline spirituelle de faire votre devoir de mémoire? Devoir de mémoire. Quand, par exemple, nous prenons la Sainte Cène, le repas du Seigneur dans nos églises, finalement, un acte de commémoration, ou quand nous passons un moment d'éternité avec Dieu, je propose une réforme du terme culte personnel pour le transformer en moment d'éternité avec Dieu. Quand vous prenez votre moment d'éternité avec Dieu, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes de lecture ou de prière par jour, pour ne pas oublier ce que Jésus a fait. On oublie tellement vite, n'est-ce pas? Pour n'oublier aucun des bienfaits du Seigneur. Est-ce que vous avez cette discipline spirituelle là? Premièrement, fermer notre bouche en signe d'étonnement. Deuxièmement, fermer notre bouche peut-être en signe de soumission ou de conviction. Et c'est ce que dit l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament. Je vous lis un passage assez surprenant dans l'Épître aux Romains. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à tous ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu, car nul ne sera justifié par les œuvres de la loi, puisque la loi vient de la connaissance du péché. Quelle est notre attitude devant le serviteur, qui est Dieu lui-même? Est-ce que nous sommes parfois tentés d'ouvrir notre bouche devant lui? Soit pour nous défendre, ah, je suis né dans une famille chrétienne de génération en génération. Mon père était pasteur, mon grand-père était pasteur, mon arrière-grand-père était pasteur. Je ne suis pas pasteur, mais je suis issu d'une famille chrétienne. Ne suis-je pas plus juste que les autres? Est-ce que nous sommes tentés d'ouvrir notre bouche devant le serviteur pour nous justifier? Je suis quelqu'un de bien finalement, je n'ai fait de mal à personne. Est-ce que vous êtes tenté d'ouvrir votre bouche devant le serviteur pour lancer des objections contre Dieu? Comment croire en toi? Toi qui ne réponds que si rarement à mes prières. Est-ce que nous sommes tentés d'ouvrir notre bouche devant le serviteur? Est-ce qu'on s'est repenti? Est-ce qu'on a demandé pardon à Dieu? Non seulement pour le pardon de nos fautes, mais aussi pour notre tentative d'auto-justification. Pour toutes les bonnes œuvres que nous avons faites et qui, selon nous, devraient contribuer à notre salut. Est-ce que nous nous sommes repentis non seulement de nos péchés, certes, mais aussi de notre auto-justification, le fait de nous justifier nous-mêmes, comme si nous pouvions nous justifier nous-mêmes. Fermer notre bouche. Deuxième et dernière application à partir de la dernière partie du verset 15. Voir et comprendre. Regardons ensemble encore la dernière partie de ce verset. Car ils, les rois, verront ce qui ne leur avait pas été raconté. Ils comprendront ce qu'ils n'avaient pas entendu. Deuxième et dernière application, voir et comprendre. Voir et comprendre. Dans les versets que nous avons lus ensemble ce matin, est-ce que vous voyez Jésus-Christ? Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous le discernez? Est-ce que vous voyez Jésus qui a pris la condition de serviteur et qui a été élevé souverainement? C'est ce que le Nouveau Testament dit, hein, Philippiens 2, versets 7 et 9. Est-ce que vous le voyez, Jésus, dans ces versets? Qui est venu comme sacrificateur prêtre des biens à venir, qui est entré une bonne fois pour tout dans le sanctuaire, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. C'est ce que dit le Nouveau Testament en Hébreux 9. Est-ce que vous voyez Jésus-Christ dans ces versets? Vous le voyez ou pas? le serviteur qui a été transpercé pour nos péchés. Et est-ce que vous comprenez la sagesse de Dieu au travers de son sacrifice ? Est-ce que vous comprenez que sans sacrifice, il n'y a pas d'élévation ? Ou que pour le dire autrement, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés, tout à fait. Est-ce que vous comprenez que si Dieu, que nous ne pourrions pas être pardonnés, si le Fils n'avait pas accepté d'être percé pour nos péchés ? Est-ce que vous comprenez que cette croix sur laquelle Jésus a été sacrifié est finalement la sagesse de Dieu ? Le moyen qu'il a choisi pour sauver les hommes et qui confond la sagesse des hommes. Toute tentative de se justifier, de se sauver soi-même. Alors si comme moi vous avez parfois du mal à comprendre cette sagesse, je vous encourage à faire deux choses. La première chose, c'est à lire la Croix du Christ. Nous avons déjà fait référence à cet ouvrage, The Cross of Christ, un ouvrage vraiment pertinent. Rédigé par John Stott, l'un des penseurs chrétiens les plus influents du XXe siècle, qui est décédé il y a quelque temps, et un livre qui confronte vraiment notre génération, votre génération, avec la centralité de la croix dans le plan rédempteur de Dieu. Pourquoi ne pas faire de ce livre ou d'une partie de ce livre, simplement, votre lecture de l'année, pour vous édifier, pour vous encourager, pour vous aider à voir et à comprendre la sagesse de Dieu au travers du sacrifice du serviteur. Deuxième piste d'application, lire l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau Testament et vice versa. Une méthode utile, très utile, pour votre méditation quotidienne de la Bible et notamment pour la préparation de vos discussions autour de la Bible. Quand vous allez préparer le texte sur Luc, il y a une citation de l'Ancien Testament. Lire le Nouveau Testament à la lumière de l'Ancien Testament. Les deux se complétant. Lisons 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 18 à 19. Dernier passage pour finir. 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 18 à 29, pour nous aider à voir et à comprendre la sagesse, pour enfoncer le clou, si j'ose dire, de la sagesse de Dieu qui confond la sagesse des hommes dans ces versets. Car la parole de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages, c'est Dieu qui parle, et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le contestataire de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse des hommes? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu dans sa sagesse, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs, Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, comment vous avez été appelés. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les folles choses du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, pour réduire à rien celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Ah ! Est-ce que vous voyez, vous avez la sagesse de Dieu au travers de son serviteur, le Seigneur Jésus-Christ ? Et est-ce que vous comprenez ces implications dans notre relation avec Dieu et dans notre témoignage. Et je m'arrêterai par là. Les implications de la sagesse de Dieu, et notamment du fait de comprendre la sagesse de Dieu, non seulement dans notre relation personnelle avec Dieu, mais dans notre témoignage. Et c'est ce dont nous parlions il y a quelque temps, le témoignage. Par exemple, comment savoir si Dieu m'aime vraiment ? Après tout, comment savoir si Dieu m'aime vraiment aujourd'hui, ce matin, à l'heure où nous parlons ? Comment pouvez-vous avoir l'assurance que Dieu vous aime vraiment ? Si nous essayons de trouver la réponse à cette question selon les critères de la sagesse humaine, par exemple, l'obéissance à la loi de Dieu, parfaite et constante pour être en règle avec Dieu. Mais si nous nous référons aux critères de la sagesse des hommes pour avoir cette réponse à cette question, mais je pense que nous sommes vraiment condamnés à vivre dans le doute, dans l'incertitude de l'amour de Dieu pour nous, et à culpabiliser. Pourquoi ? Parce que nous n'obéirons jamais, moi en tout cas, parfaitement et constamment à la loi de Dieu. N'est-ce pas ? La réponse à cette question, si vous luttez assez avec cette question dans votre fort intérieur, la réponse à cette question, mes amis, ne se trouve qu'en Dieu lui-même. Elle ne se trouve non pas en ce que nous faisons pour Dieu, mais en ce que Dieu a fait pour nous. Non pas dans notre propre sagesse, mais dans sa sagesse. Dans sa sagesse personnifiée, dans l'œuvre de son serviteur, qui a vécu la vie parfaite que nous n'aurions jamais pu vivre et qui a subi la mort que nous aurions dû subir. C'est en lui qu'il faut trouver la réponse à cette question. Si nous luttons avec cette question dans notre fort intérieur, il peut garantir à tous ceux qui placent leur confiance en lui d'être pardonnés en règle, en relation avec lui pour l'éternité, non pas en vertu de ce que nous avons fait pour Dieu, mais en vertu de ce qu'il a fait, de ce qui ne change pas, de ce qui est immuable, éternel, inconditionnel. Vous voyez les implications de la compréhension de la sagesse de Dieu dans notre relation avec Dieu. C'est que nous pouvons avoir l'assurance de notre salut, non pas selon les critères de la sagesse humaine, l'obéissance à la loi, mais selon les critères de la sagesse de Dieu, le salut par la foi, la justification par la foi. Implication de Dieu, implication dans notre relation avec Dieu, dans notre témoignage, pour finir, notre témoignage auprès des autres. Comment faire pour que ceux qui n'ont jamais entendu l'évangile, et je me réfère à Isaïe 52, verset 15, comment faire pour que ceux à qui l'évangile n'a jamais été annoncé, par exemple, ferment leur bouche en signe de stupéfaction, de soumission? Comment faire? J'aimerais tellement que mes amis puissent adopter la même attitude que les rois. La même attitude que vous avez adoptée si vous croyez au serviteur. Comment faire? Eh bien là encore, si nous essayons de trouver la réponse à cette question selon les critères de la sagesse humaine, par exemple, une éloquence extraordinaire, des arguments apologétiques irréfutables, pour, si Dieu existe, pourquoi le mal? Dieu existe, prouve-le. J'ai explosé là, Dieu existe. Mes amis, mais si nous essayons de trouver les réponses à cette question, selon les critères de la sagesse humaine, nos tentatives sont vouées à l'échec. En fait, Dieu peut tout faire, a priori. Il est libre de faire ce qu'il veut. Mais si nous nous en tenons aux réponses de la sagesse purement humaine, nous sommes vraiment condamnés, à mon sens, à culpabiliser et à être très facilement découragés. Parce que nous sommes incapables, je suis incapable de convertir ou de convaincre qui que ce soit. Absolument incapable. Seul Dieu, par sa sagesse, est capable de confondre la sagesse des hommes, de les convaincre dans leur fort intérieur qu'ils sont pécheurs, qu'il y a un problème entre eux et Dieu, qu'ils ont besoin d'un sauveur. Seul Dieu est capable de changer leur cœur de pierre en cœur de chair. J'en suis incapable. Vous avez déjà essayé de rentrer dans le cœur de quelqu'un? Vous avez déjà essayé de faire passer quelqu'un de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, du royaume de Satan au royaume de Jésus, le Fils bien-aimé? Seul Dieu est capable de le faire par la puissance de son esprit. Les hommes ne peuvent pas comprendre l'évangile par eux-mêmes en vertu de leur raison autonome. Ils ont besoin du secours de la grâce, de la sagesse de Dieu qui confond la sagesse des hommes au travers de son serviteur. Tout ce que Dieu nous demande, mes amis, tout ce qu'il nous demande, c'est de parler de Jésus. De parler de Jésus là où il n'a pas été nommé. Et là, je cite Romains 15, Versets 20 à 21, « Afin de ne pas bâtir sous le fondement d'autrui, mais selon ce qui est écrit, ceux à qui il n'avait pas été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient pas entendu parler comprendront. » Quelle promesse! Vous y croyez? On prie. Prenons quelques secondes pour méditer dans notre fort intérieur ce que nous avons vu dans ces versets, la sagesse de Dieu qui confond la sagesse des hommes au travers d'un serviteur élevé parce que défiguré parce que sacrifié pour le pardon de nos péchés. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ton serviteur, le Seigneur Jésus-Christ, un serviteur élevé, défiguré, sacrifié, au travers duquel tu as manifesté ta sagesse qui confond la sagesse des hommes. Face à ce serviteur, nous te demandons de nous aider à fermer notre bouche en signe de stupéfaction et de soumission, et à voir et comprendre la sagesse de Dieu, qui n'est autre que Jésus-Christ crucifié pour nos péchés et ressuscité pour notre espérance vivante. Nous te demandons également, notre Dieu, notre Père, de nous aider par la puissance de ton esprit à vivre les implications de la sagesse dans notre relation personnelle avec toi, en cherchant la source de ton amour pour nous en toi, et aussi à vivre les implications de ta sagesse dans notre témoignage, pour que le plus grand nombre voie et comprenne la sagesse de Dieu, qui confond la sagesse des hommes. Au nom de Jésus. Amen.